Le journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa numéro 1.
Africa.
Bienvenue dans votre émission Le Journal des Auditeurs. La parole est à vous pendant 30 minutes sur la radio africaine. Aujourd'hui, lundi 23 juillet 2018, les enjeux de l'élection présidentielle malienne pour la diaspora. Les Maliens sont appelés à voter le 29 juillet pour élire leur président de la République. Il y a 24 candidats qui briguent la magistrature suprême. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta se représente. La diaspora malienne, très importante en France, suit cette élection de près et se prépare à voter. Quels sont les enjeux de ce scrutin? Quelles sont leurs priorités? Quelles sont les priorités pour la diaspora? Et qu'attendent-ils du président élu? Nous en parlerons avec Bakary Traoré, porte-parole du collectif des Maliens de France. Pour nous donner votre avis sur le sujet, posez des questions à notre invité. Appelez-nous dès maintenant au 01 55 07 58 00. Mais avant de parler de la présidentielle malienne, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Chers amis de JDA, bonjour. Ceux qui suivent la politique de la République démocratique du Congo, moi je pense que pour toute personne de bonne foi qui aime son continent, vous allez comprendre que la République démocratique du Congo est malade. La République démocratique du Congo est très malade. En l'espace de quelques jours, ceux qui ont suivi le discours de Kabila du 30 juin, le jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo, et les discours qu'il vient de prononcer, chers Africains, vous allez vous poser la question de savoir il a dit exactement quoi. Personne ne va avoir la réponse. La seule chose que Kabila a utilisée dans ce discours, que les gens ont acclamé dans la salle, comprenez mon émotion, de référence à l'ancien dictateur Mobutu, lorsqu'il avait annoncé le multipartisme avant son départ. Chers Africains, c'est malheureux, et que ceux qui sont dans la salle qui acclament, qui ne savent même pas pourquoi ils sont en train d'acclamer, c'est les intellectuels, c'est l'élite politique congolaise. Vous allez comprendre que la République démocratique du Congo est malade, et moi je pense que l'Afrique est malade. Merci beaucoup, Max de la région parisienne.
Bonjour les amis de JDA, bonjour le peuple africain et tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Messieurs les journalistes, Kabila, nous savons que c'est un grand boulanger. Il a roulé déjà le peuple congolais dans la farine, ça fait des ans, 2016-2017. Mais cette année, c'est une année décisive pour le peuple congolais. S'il veut sortir dans la grande porte, c'est à lui de choisir. De sortir dans la grande porte ou la petite porte. Parce que nous, le peuple congolais, nous sommes déterminés. Tout ce qu'il est en train de faire, de dire, de parler, ça concerne que sa famille politique et sa famille biologique, ça ne concerne pas le peuple congolais. Nous, le peuple congolais, nous disons, nous demandons seulement son départ, qu'il quitte le Congo, qu'il laisse le pouvoir à nous et nous allons développer le Congo et nous allons mettre le Congo en rail et nous allons mettre le Congo en marche, ce que nous demandons à M. Kabila. S'il n'est pas sorti de la grande porte, le peuple congolais va s'en charger et il sera poursuivi en justice de tous ces massacres, toutes ces atrocités sommaires qu'il a commis à la République démocratique du Congo.
Bonjour Congolais, bonjour Congolaise. Je me permets d'intervenir aujourd'hui par rapport à l'allocution de M. Kabila. Arrêtons de nous faire peur pour rien. C'est ce monsieur qui a peur parce que tout son discours du début à la fin, il n'a rien dit de spécial. En fait, M. Kabila, c'est que son temps est fini. Mais il cherche à sortir des griffes pour faire peur au peuple congolais. Mais il sait que tout est accompli pour lui. Et aussi, tous les ministres qui sont autour de lui ont peur aussi parce qu'ils sont mutés. Et même leur déplacement personnel est contrôlé. Et ils ont tous peur. Alors, tout est fini.
Bonjour, Africa numéro 1. Je m'adresse au peuple malien. De sortir le 29, d'aller voter. Faut vraiment ce régime qui est en place aujourd'hui. Il faut les sanctionner. Le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta et son fils, Karim Keïta, il faut les sanctionner. Ce régime, il va amener la violence dans le pays. Ibeka, il reste quelques jours, il va laisser le pouvoir. Les peuples maliens sont prêts d'aller voter dimanche pour sanctionner le régime d'Ibeka. C'est un régime qui a enfin qui ont faim, qui n'ont pas des idées, qui n'ont pas de programme, qui n'ont rien, qui ont pillé les pays pendant 5 ans. Le peuple malien sortait dimanche, allait sanctionner ces régimes. J'ai dit, être patient. Bientôt, IDECA, son pouvoir est fini. Merci, Africa numéro 1, que Dieu bénisse Mali et Dieu bénisse l'Afrique. Merci, au revoir.
Bonjour, chers auditeurs de la radio Africa numéro 1. Bonjour, chers auditrices. J'appelle ce matin concernant le Mali. Voilà des années que Kadhafi est mort. Voilà des années que les terroristes sont au nord du Mali. Je me demande à quoi sert la force, la MINUSMA au Mali. Est-ce toujours les armes de Kadhafi qu'ils utilisent? Si oui, ok. Sinon, qui leur fournit en armes? La force de la MINUSMA est au Mali depuis des années pour encadrer les Maliens, pour former les soldats maliens, pour amener la sécurité au nord du Mali, dans tout le Mali. Et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, la sécurité n'y est pas. Il y a toujours des morts, il y a toujours des embuscades, il y a toujours des hommes et des femmes, des personnes âgées, des enfants qui sont tués chaque jour. Où sont passés ces milliers d'hommes qui sont au Mali, ces milliers de soldats de la MINUSMA qui sont au Mali, peut-être aux frais du contribuable malien? Que fait la MINUSMA au Mali? Si vraiment ils sont là pour apporter la sécurité et la paix au Mali, pourquoi depuis des années, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité au Mali? Pourquoi? Et qui fournit la MINUSMA, qui fournit les terroristes en armes? Est-ce la MINUSMA? Est-ce la France qui joue aux pyromanes et aux pompiers? Je vous remercie.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00, le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui donc, dans le JDA, les enjeux de l'élection présidentielle malienne pour la diaspora. Les Maliens sont appelés à voter le 29 juillet pour élire leur président de la République. Il y a 24 candidats qui briguent la magistrature suprême. Ces candidats, parmi lesquels le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, et Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, n'ont que quelques jours pour convaincre les 8 millions d'électeurs. La diaspora malienne, très importante en France, suit cette élection de près et se prépare à voter. Alors quels sont les enjeux de ce scrutin pour la diaspora? Quelles sont les priorités des Maliens de France? Et qu'attendent-ils du futur président? Nous en parlons avec Bakary Traoré. Bakary Traoré, bonjour.
Oui, bonjour Nejad, bonjour à tous vos auditeurs des parlements où ils se trouvent.
Merci, bonjour. Vous êtes le porte-parole du collectif des Maliens de France. Alors tout d'abord, Bakary Traoré, votre regard sur la campagne présidentielle actuelle et la manière dont elle se déroule.
Nejad, je pense que la campagne actuelle se passe d'une manière normale. Malgré les inquiétudes qui ont été exprimées ça et là pendant la pré-campagne, mais je pense que depuis l'ouverture de la campagne jusqu'à aujourd'hui, nous constatons un déroulement normal donc des campagnes, de la campagne à travers tout l'ensemble du pays. Oui. Même si bien sûr il y a des inquiétudes, il y a des fortes inquiétudes qui ont été exprimées ça et là. Je pense qu'on va revenir au niveau de l'émission. Mais d'une manière générale, les candidats donc sont en déplacement à travers le pays. Oui. Le Mali fait 3 fois la France. C'est pas facile. On est en période hivernale et les routes ne sont pas très praticables. D'accord. Donc ceci suppose bien sûr des difficultés pour les candidats de multiplier les sorties. Oui. Mais cela dit, nous constatons sur l'ensemble du pays, hormis bien sûr les zones de conflit qui restent encore peu fréquenté, notamment je pense à Kidal où il y a eu 2 candidats qui ont fait un tour là-bas. Je pense aussi aux zones de Taoudéni ou de Tessalit dans le fin fond du Mali.
D'accord.
Mais cependant, d'une manière générale, en termes de déplacement et de mobilité des candidats, il n'y a pas d'obstacle majeur par rapport à ça. Comme vous savez, le pays est sous le joug de ces menaces terroristes qu'on redoutait beaucoup pendant la pré-campagne. Mais ici, jusque-là, on n'a pas eu des obstacles majeurs à ce niveau.
D'accord.
Mais oui.
D'accord. Oui. Bon, on le sait, il y a une importante communauté malienne en France. Est-ce que vous sentez qu'elle est prioritaire pour les candidats en lice?
Bon, je pense que ça dépend donc de l'agenda de chaque candidat.
Oui.
Mais ce qu'on a constaté en tout cas depuis bien avant l'ouverture de la campagne, donc en pré-campagne,
oui.
Depuis vers le mois d'avril, mai, juin, donc plusieurs candidats potentiels ont fait des tours ici.
Oui. Sont venus ici en France faire campagne.
Voilà, pour animer, pour activer donc leur réseau au sein donc de la diaspora,
oui.
Et au-delà. Mais cela dit, donc au sein de la diaspora ici en France, vous avez une forte concentration bien sûr donc des Maliens de France au niveau de la région parisienne,
oui.
Qui a eu la visite de pas mal de candidats.
Oui. Quels sont les principaux candidats qui sont venus en France là avant ce premier tour et qui ont l'intention de venir peut-être là avant dimanche?
Bon, vous savez, le Mali a une vingtaine d'années d'expérience de pratique démocratique.
Oui,
c'est-à-dire que les hommes politiques sont beaucoup plus rodés et plus futés. Même s'ils viennent après la campagne, ils ont toujours des astuces pour dire que ils sont venus vers des visites de courtoisie ou des visites de routine, etc. Mais on sent bien que c'est bien sûr dans le cadre donc de pré-campagne. Donc pour cela, vous avez bien sûr le président sortant même Ibeka qui est venu ici plusieurs fois,
oui.
Qui a rencontré pas mal certainement donc de son état-major.
Oui.
Vous avez son talanguère Soumaïla Cissé qui a fait plusieurs tours ici et qui a fait une réunion dont j'ai assisté d'ailleurs pour parler donc des inquiétudes qu'il estimait entourer le fichier électoral.
Vous avez d'autres
candidats aussi qui étaient là certainement récemment, Modibo Koné, le général Sinko qui était passé avant, Modibo Sidibé aussi avant,
oui.
Moutagatal. Donc il y a pas mal de candidats qui ont déjà fait, j'en oublie certainement, mais qui ont déjà fait le tour pendant la pré-campagne,
et pendant
la campagne aussi. Mais
alors,
je pense que depuis l'ouverture de la campagne, beaucoup se focalisent beaucoup plus cette année, ce qu'on ressent par rapport aux élections de 2013,
oui.
Sur le niveau national qu'au niveau international ici en France.
D'accord.
Sachant bien qu'ils ont déjà fait plusieurs tours ici pendant la pré-campagne.
D'accord.
Vous avez
ce que vous dites que c'est pas un enjeu pour les candidats, la plupart des candidats, c'est pas un enjeu prioritaire, la diaspora, par rapport à l'élection précédente, c'est ce que vous voulez dire?
Bon, vous savez, selon le fichier électoral, le fichier national, donc vous avez la diaspora malienne, enfin la diaspora malienne d'une manière générale sur l'ensemble, enfin à travers le monde entier, fait 5,6% du fichier national, lequel fichier national qui comporte donc 8 millions 462 électeurs.
Oui.
Et sur ces 8 millions 462 électeurs, donc Paris, donc vous avez 79 451 électeurs.
D'accord.
Chacun y va selon sa stratégie, mais je pense que Paris demeure toujours au niveau des élections présidentielles un enjeu majeur dans leur campagne, parce
D'accord.
que vous savez, il y a toujours ce mythe autour de la France, des Maliens de France, qui ont été très très mobilisés pendant tout le long donc de la crise que le Mali a connue en 2012, qui sont beaucoup plus, qui sont, je dirais, parfois un peu en avance sur certains événements,
d'accord.
Pour alerter, pour mobiliser, essayer de mobiliser le reste du pays. Et, cet éveil de conscience, donc la société civile malienne a beaucoup joué sur ça pendant la crise en 2012, mais aussi pendant la révision constitutionnelle, par exemple. Et qui fait que les candidats essayent de tenir compte de ça. Mais vous avez aussi la manne qui peut bénéficier auprès donc des médias internationaux ici en France, et au niveau audiovisuel qu'au niveau réseau, réseaux sociaux.
Alors restez avec nous, Bakary Traoré. Hein, nous allons revenir avec vous sur des questions qui préoccupent la diaspora. Vous avez parlé du fichier électoral tout à l'heure, mais on va revenir aussi sur les programmes des candidats. Mais nous avons beaucoup d'auditeurs qui attendent et qui souhaitent s'exprimer. Nous avons en ligne Monsieur Diaby. Monsieur Diaby, bonjour.
Gilan. Vous allez bien?
Ça va, merci Monsieur Diaby.
Oui, ça va très bien. Moi, je vais parler vraiment, votre invité, je l'ai salué vraiment, il a bien analysé les choses.
Oui.
C'est ça le Mali. Ça, on adore quand quelqu'un qui analyse les choses avec correctement, on est vraiment d'accord avec lui, parce que vraiment, aucun Malien peut contredire aujourd'hui ce qu'il nous a dit.
Oui.
Mais deuxième chose, moi, ce que je vais dire, notre candidat aujourd'hui, c'est Soumaïla, parce que les Maliens, ils m'obligent.
Soumaïla Cissé.
Soumaïla Cissé. Notre candidat, c'est Soumaïla, parce que 2012, tout ce qu'on a dit sur Soumaïla, tout ce que Ousmane l'a dit, la vérité, le Malien, il nous vit la vérité.
D'accord.
Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus suivre Ibeka parce qu'il nous a tellement menti, on ne peut pas suivre. Aucun Malien peut dire, Ibeka, il a fait quoi pendant 5 ans? Aucun Malien, il ne peut pas dire, Ibeka, il a fait ça.
D'autres vous diront le contraire. Les partisans de M. Ibeka diront le contraire, diront que quand même en 5 ans, beaucoup de choses ont été faites.
Mais ça, c'est la démocratie. Chacun, il pense à ce qu'il pense. Mais moi, je pense qu'en tant que Malien qui est honnête, qui voit ce qu'il a fait, Boubacar Keïta, qui nous dit ce qu'il a fait.
D'accord.
Moi, j'ai tenu le compte tenu de Soumaïla, ce que Soumaïla a dit. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire.
D'accord.
J'espère qu'il sera élu le premier tour. S'il ne peut pas être élu le premier tour, deuxième tour.
D'accord.
J'espère que Soumaïla l'apportera.
Très bien.
Voilà, c'est Monsieur Diaby. Merci bien.
Merci, merci beaucoup, Monsieur Diaby, pour votre intervention. Nous avons en ligne Magassa. Magassa, bonjour.
Bonjour, moi j'ai demandé à M. Ibeka, c'est pas trop tard, d'ici dimanche prochain, il n'a pas retiré sa candidature et il part avec l'honneur.
On a plus d'accord. Vous souhaitez qu'il retire sa candidature?
Il faut qu'il retire sa candidature. Ibeka, si ce conseiller m'écoute, tous les Maliens qui m'écoutent et ceux qui sont près de lui, lui demander de qu'il retire sa candidature.
C'est le président sortant, il peut se représenter, c'est le président sortant,
non,
il peut défendre son bilan. Et...
Il n'a pas de programme, il ne peut pas se représenter, tout ce qu'il m'a dit, il a fait le contraire.
Et
on n'a pas besoin de lui, il n'a qu'à faire comme M. Hollande l'a fait, c'est pas trop tard. D'ici dimanche, il n'a qu'à faire un bon discours, dire Malien, je vous remercie, je pars, j'ai rien fait au Mali, j'ai honte.
D'accord.
Il a dit l'honneur du Mali. Et quel honneur lui il a fait pour nous. Il a resté chez lui à Sébenikoro là-bas.
D'accord.
Mali est en train de dépenser des milliards par mois à sa domicile privé. On doit faire une loi aux députés n'a qu'à voter. Un président, il ne doit pas dormir dans son domicile personnel. Il doit aller à Koulouba. Koulouba, il le fait pour le président de la
D'accord.
République. Ce n'est pas fait.
Très bien. Alors Magassa, vous, en tant que Malien résident en France, vous, qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont les priorités? Quels sont les points sur lesquels vous souhaitez que le futur président insiste concernant la diaspora?
Les diasporas maliens, ils souffrent au niveau des consulats. Il n'y en a pas assez. Il y a trop de monde. On se concentre tout le monde. On a bien dit de décentraliser le consulat au niveau des 93.
D'accord.
Dans les autres villes, ils disent oui, chaque fois, ils ne le font pas.
D'accord.
Puisque dans les autres pays, à l'Algérie, au Maroc, tout ça, ils ont les consulats dans toutes les grandes villes.
Ouais.
Mais nous, quelqu'un qui habite jusqu'à Marseille, il est obligé de prendre le train, venir au consulat du Mali en France. Et quelqu'un qui habite à Mulhouse...
Attendez, j'ai pas compris. Quelqu'un qui habite Marseille, il est obligé de prendre le train pour aller où? Pour aller à Paris, c'est ça?
Oui.
D'accord.
Il vient après, on dit, ah, c'est trop tard, il y a trop de monde, on ne peut pas vous prendre. Comment les gars, ils vont faire?
D'accord.
Deux jours, trois jours pour avoir ces papiers. Il y a trop de monde concentré sur le même endroit. Ce n'est pas possible. On insulte les pauvres gens qui travaillent là-bas.
D'accord.
Je crois que ce n'est pas leur faute.
D'accord. Votre principale préoccupation en tant que Malien résident en France, c'est tout ce qui concerne les questions administratives, l'accueil des Maliens pour leur démarche, pour les papiers, passeport, titre d'identité. C'est cela, en fait.
Ils ont obligé d'aller à 4h du matin, 3h du matin pour attendre avoir un ticket pour faire les papiers.
D'accord.
Tous les Maliens qui sont là-bas, moi je n'ai même pas nationalité malienne, je suis d'origine malienne, mais je connais mes compatriotes, ils souffrent au niveau du consulat.
D'accord.
On s'insulte là-bas tous les jours pour rien.
Très bien, merci beaucoup Magassa. Magassa, merci beaucoup pour votre intervention, on a très bien compris. Il y a beaucoup d'auditeurs qui souhaitent intervenir, mais nous allons redonner la parole à Bakary Traoré, un porte-parole du collectif des Maliens de France. Alors, Monsieur Traoré, vous avez entendu les auditeurs et notamment Magassa. L'une des préoccupations, l'une des attentes, c'est le suivi administratif, c'est toutes les questions touchant aux délivrances des papiers. Ça, c'est une préoccupation majeure, mais est-ce qu'il y en a d'autres aussi?
Oui, il y en a d'autres, mais je voulais rebondir rapidement sur ces explications de M. Magassa par rapport au retrait donc des cartes du lecteur.
Oui.
Je pense que il apparaît sur les deux tableaux, tant le consulat au niveau le consulat au niveau de France, mais aussi au niveau d'autres diasporas.
Oui.
Mais cela dit, j'apporte quand même un bémol par rapport comparativement aux élections de 2013.
Oui.
Cette année, d'après les échos qu'on reçoit, cette année vraiment le consulat a su faire une certaine décentralisation donc du retrait des cartes d'électeurs, comme en 2013 c'était concentré au niveau de l'ancien consulat et le nouveau consulat. Là cette année, au niveau des chaque grand département, donc en région parisienne, eh bien, vous avez donc des centres de retrait, oui. Donc pour les cartes d'électeurs. Mais cela dit, il y a des problèmes effectivement en ce qui concerne donc ceux qui sont au niveau des provinces, comme oui. c'est le cas de Marseille. Mais vous avez le cas des Lyon aussi, oui. on en parlait donc hier soir sur les réseaux sociaux. Donc à ces niveaux, je pense que donc l'ambassade, le consulat est interpellé pour faire en sorte, pour apporter des solutions palliatives et faire en sorte que ces centres de retrait puissent être rapprochés aux citoyens. Mais cela dit, je pense que beaucoup de Maliens de France le constatent, il y a eu vraiment une amélioration par rapport à la gestion administrative de ce qui concerne le consulat, même si bien sûr il y a des problèmes qui subsistent. Mais cela dit, au-delà de ça, il y a aussi d'autres enjeux que oui. je pense que je souhaiterais parler, aborder. Bien sûr,
il y a
la question oui. de transparence et la crédibilité par rapport à ces élections à venir. Oui. Notamment, je fais allusion au fichier électoral.
Oui, justement, parce que l'équipe de Soumaïla Cissé a dénoncé vendredi dernier, je cite, d'importantes anomalies dans le fichier électoral, mettant en garde contre ce qui s'apparente, selon lui, à une vaste tentative de fraude. Alors, est-ce que vous partagez ces craintes ?
Je partage tout à fait ces craintes dès lors que, eh bien, ils disent qu'ils ont des preuves par rapport à ça, à l'appui. Alors, il faut rappeler déjà que ce fichier électoral a été à la demande donc du gouvernement sous le Premier ministre Soumaïla Boubé Maïga, a été donc audité par l'Office international donc de migration, l'Office international donc de la francophonie, disons, le IEF. Oui. Et qui a rendu ses conclusions, ses résultats au mois d'avril. Et la conclusion est que ce fichier électoral est fiable, même si quelques correctifs mineurs doivent être y apportés.
D'accord.
Mais cela dit, à une semaine donc, des élections, eh bien, le camp de l'opposition, qu'il faut rappeler, bien sûr, à ses experts, ses propres experts, oui. et de même que l'État, la majorité aussi, avaient leurs propres experts, au sein d'une commission qui a été mise en place justement ouais, pour ouais. étudier, nettoyer donc le fichier électoral. Donc l'opposition de son côté a estimé que eh bien il y a un fichier parallèle, lequel fichier parallèle contiendrait donc 1 200 000 électeurs fictifs.
Oui,
1 200 000 électeurs fictifs, sachant bien que le fichier national officiel contient 1 462 électeurs. Et
d'accord.
donc le Premier ministre donc a rencontré donc le directeur de campagne donc de candidats Soumaïla, c'est-à-dire M. Tchebile Dramré, donc avec certain nombre de délégations pour étudier la question.
Oui,
et
oui,
à la
oui.
suite donc de cette rencontre, le Premier ministre donc a fait un communiqué pour expliquer un certain nombre de mesures
oui.
qui me paraissent vraiment très importantes et idoines de la part du gouvernement.
D'accord.
Notamment en ce qui concerne donc de mettre à la disposition de chaque candidat l'ensemble le fichier électoral pour ceux qui le désirent.
D'accord.
D'une part, de mettre en place une commission qui étudie actuellement d'ailleurs ces craintes, ces inquiétudes ou ces anomalies
oui.
qui ont été évoquées par l'opposition.
D'accord.
Jusqu'à présent, donc, on n'a pas les conclusions de cette commission qui a été.
Alors, est-ce que vous. Oui, alors, Bakary Traoré. Alors, vous, en tant que porte-parole du collectif des Maliens de France, est-ce que vous allez observer le déroulement du scrutin en région parisienne ?
Le déroulement, bien sûr, comme
vous serez attentif.
On essaiera de sillonner autant que l'on peut, bien sûr, certains centres de vote pour voir la transparence de ces élections. Mais cela dit, je pense que vous avez des structures idoines qui sont en place par rapport
oui.
à ça, notamment je pense donc à la CINI, où toutes les parties prenantes donc aux élections, opposition, majorité, l'État,
oui.
ont ses représentants. Bon, mais cela dit, en tant que société civile, pas seulement donc le collectif des Maliens de France pour la paix, mais aussi d'autres
d'accord.
organisations de la société civile, comme d'habitude, ont l'habitude de le faire, donc sont interpellés pour faire quelques centres de vote pour s'assurer donc de la crédibilité de ces élections.
Bakary Traoré, hein, nous avons beaucoup d'auditeurs qui souhaitent réagir. On vous retrouve d'ici quelques minutes. Nous avons en ligne Sissoko. Sissoko, bonjour.
Oui, allô, oui, bonjour. C'est Sissoko Tchèque.
Oui. Oui.
Ouais, donc, je vous appelais. C'est vrai qu'il y a un gros problème au niveau de l'élection pour la diaspora.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait leur demande des cartes NINA.
Oui.
Il y a deux ans, trois ans, voire un an avant les élections.
Oui.
Et il y en a beaucoup qui se plaignent aujourd'hui que non seulement ils n'ont pas leur carte NINA, mais non, même quand on n'a pas sa carte NINA, du moins qu'on a fait la première demande, on peut se présenter à la mairie ou au consulat pour retirer la carte d'électeur.
Oui.
Impossibilité d'avoir leur carte d'électeur. Et ils sont nombreux, ces gens-là.
Oui,
ils n'ont pas leur carte d'électeur, qui demandent qu'à voter.
D'accord.
Et déjà, ça, c'est pas normal, déjà. Oui. Déjà, il y a quelque chose qui va pas. Et puis, pour les élections, ça, c'est sûr qu'il va y avoir, comment dirais-je, que les élections ne seront pas faites comme il faut. Je pense qu'il va y avoir des trafics, il y aura quelque chose, en tout cas, il va y avoir de la corruption, en tout cas, il y aura quelque chose.
Qui ça, c'est votre avis, hein, Sissoko, de toute façon.
Ça, c'est mon avis à moi. Vu ce que moi, j'ai vu par rapport aux gens que j'ai fréquente, aux gens que j'ai côtoie, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes au niveau de cette élection.
D'accord.
Alors, déjà, non. Et puis, d'autre part, je pense aussi que les Maliens n'ont pas bien compris ce que c'est que la politique. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont voter plutôt parce que pour une personne, par intérêt, ou bien parce que la personne leur a donné de l'argent pour y aller voter. Mais ils ne pensent pas que...
Vous savez, les Maliens sont très politisés, hein, pour les avoir rencontrés. Donc, les membres de la communauté sont politisés et regardent de manière très, très, très importante, enfin, les programmes, et ils sont sensibilisés sur la question politique. Hein. Ce n'est pas une question de personne, je pense.
Oh, si, il y a beaucoup de, ça je vous confirme, il y a beaucoup de, c'est plutôt des questions de personnes. Il y en a qui pensent que telle personne, ça fait X temps qu'il est après, qu'il veut être président depuis X temps, donc qu'il faut lui donner les pouvoirs. Moi je dis non, il faut regarder le programme de chaque personne.
D'accord. C'est genre ça. Très bien, merci beaucoup Sissoko, nous avons beaucoup d'auditeurs et il reste très très peu de minutes. Nous avons en ligne Mohamed, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Mohamed, on vous écoute.
Moi je vous remercie. Pour penser au Mali toujours. Donc moi j'appelle mes concitoyens de prendre leur disposition dimanche, de sanctionner durement ce régime, et pour donner l'exemple à l'Afrique.
D'accord.
Ibeka, on les a soutenus en 2013.
Oui.
Les Maliens ne l'ont rien.
Vous êtes déçus, hein, c'est ça. Vous êtes déçus.
Il y a beaucoup de milliers de gens comme moi.
Oui.
Donc je demande à la population de voter massivement.
D'accord.
Voter massivement. J'ai travaillé ce qui nous en 2013, en 2012. Comme on souffrait dans les rues à Paris.
D'accord.
Alors, oui, mais connaît très bien. Nous, on ne veut pas respecter un monsieur tout le temps dilapider l'argent des gens. Quand nous, on manifestait, j'ai travaillé, c'est comment on récoltait, on donne nos propres moyens pour manifester. On a mobilisé des gens pour aller jusqu'à Strasbourg.
D'accord.
On n'accepte plus des gens comme ça. Nous, on s'est privé de notre boulot pour défendre le pays.
Très bien.
On n'a plus besoin des gens comme ça.
Merci beaucoup Mohamed.
Le travail, l'emploi et la sécurité.
Merci beaucoup Mohamed pour votre intervention. Nous avons en ligne Koulibaly. Koulibaly, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, vous écoute.
Oui, vraiment je suis fier d'être malien aujourd'hui parce que j'ai entendu mes frères maliens qui sont en train de parler en tant qu'homme, en tant que patriotisme.
Oui.
Ce que je veux vous dire, monsieur, tous ces 24 candidats, il y a une femme dedans.
Oui.
Qui s'appelle Djeneba Ndiaye.
Oui.
Et beaucoup, beaucoup de qualités que le paysan actuel.
Oui. Oui.
Malgré, il ne parle pas. Il n'a pas fait le discours en français. Chaque fois, quand il parle, zouk à Kidal, il a fait 3 jours à Kidal.
Oui.
Et le problème, Ibeka, qui n'est pas du tout convaincu, les Maliens, malgré il a fait 5 ans, le discours qu'il a fait actuellement, dans l'année nationale, on ne sait pas qu'est-ce qu'il parle. Je ne sais pas qui parle Lingala, je ne sais pas autre chose. Mais le problème, en tant que Malien, il ne parle pas, même pas de Bamara. Donc, le problème, c'est que je veux vous dire, les Maliens sont compris que le président Ibeka, ce n'est pas l'homme de situation au Mali actuellement.
Oui, d'accord.
Il y a un auditeur, Djabi, qui vient de dire, je ne sais pas qui, je lui félicite déjà d'ailleurs, que Ibeka, il a trahi les Maliens depuis 2013 et ils ont voté pour eux. Ben c'est vrai, à l'époque, ce n'est pas tous les Maliens qui s'est concentrés sur les politiques maliens.
D'accord.
Aujourd'hui, comme vous avez dit, aujourd'hui, les Maliens, ils s'en foutent l'argent. Les Maliens, ils s'en foutent la corruption pour voter à tel. Les Maliens, ils aiment leur pays.
D'accord.
Ils ont compris que Ibeka, c'est impossible, M. Dialan, un président qui gouvernait avec la famille proche pour avancer le pays. Hier, tout récemment.
Merci beaucoup. Il nous reste très très peu de minutes. Hein. Nous allons redonner la parole à Monsieur Bakary Traoré. Bakary Traoré, merci de rester avec nous. Alors, on le voit, la sécurité, c'est une priorité des Maliens, mais des Maliens aussi rencontrés ici en France évoquent la sécurisation des investissements de la diaspora au pays. Faut-il que le futur président améliore aussi ce point ?
Ah oui, tout à fait. Je pense que donc quand on écoute
les cris des uns et des autres par rapport à la diaspora, c'est vraiment le fait que les promesses qui sont faites chaque fois, qui ne sont pas tenues, notamment, je pense bien sûr, au candidat sortant, M. Ibeka, qui a promis pas mal de promesses par rapport aux diasporas, donc, de manière de l'extérieur, notamment en ce qui concerne l'amélioration donc, des services au niveau donc, des services consulaires à travers le monde.
Oui.
Et vous avez plus que 4 millions de Maliens de l'extérieur donc à travers le monde.
Oui.
Et ça se pose vraiment des défis majeurs pour qu'ils puissent accéder à leur papier administratif. Et ça demeure toujours, le problème demeure toujours majeur. Même
d'accord.
si, bien sûr, comme je le disais tantôt, au niveau de la France ici, il y a eu une certaine amélioration.
Oui,
mais cela dit, un auditeur a parlé de la carte NINA aussi. Et ça, il faut préciser que donc, la nouvelle loi, la révision de la loi électorale donc, permet, à défaut donc, de carte de l'électeur, de pouvoir voter sous réserve donc, du respect de la loi avec sa carte NINA. Mais cela dit, l'idéal, c'est vraiment se déplacer massivement pour aller retirer ses cartes d'électeur. Et là, c'est aussi un devoir civique citoyen que chaque citoyen doit assumer.
D'accord.
L'État, d'ailleurs, chômé et payé deux jours, notamment ce vendredi et aujourd'hui lundi, pour que les uns et les autres puissent aller retirer leurs cartes et enfin d'exprimer leur opinion le jour J, le 29 juin.
Très bien. Alors, est-ce que les Maliens ont pu avoir accès facilement au programme des candidats? Certains Maliens rencontrés me disaient que les programmes des candidats était illisible.
Ben justement, c'est des enjeux donc, de cette élection, notamment l'offre politique, ce que j'appellerais l'offre politique des candidats.
Oui.
Effectivement, il y a des problèmes de communication par rapport à ces programmes. Quand on regarde au niveau des médias, bien sûr, il faut saluer donc, le respect jusque-là, en tout cas d'une manière les dispositions, donc, de dispositions pertinentes de la loi électorale en ce qui concerne donc, le temps d'antenne au niveau des médias public et privé, mais ce qui est déplorable, le Mali est un pays multilinguiste, il y a de forts problèmes. Les messages sont diffusés soit en français ou en bambara.
D'accord.
Alors que il y a les autres langues où les messages doivent passer pour atteindre bien sûr le reste des populations. Et là, il y a un fort travail donc à faire par les médias, notamment audiovisuels. Bien sûr, il y a aussi ça, c'est un problème d'ordre technique en ce qui concerne les programmes de ces candidats qui ne sont accessibles que eh bien, ceux qui ont une connexion Internet et connaissant bien le bas débit que les fonds du Mali connaissent.
Oui,
je pense que ce n'est pas évident pour un électeur à Kidal ou un électeur à Kai, à Yerebané ou à Andra Boukane, par exemple, d'accéder facilement avec Internet au programme de ces candidats.
Très bien.
Je pense que, donc la 2G, toutes les autres structures qui sont concernées par rapport à ces élections peuvent imaginer des solutions envisageables. Mais cela dit, comme je disais, le Mali a bientôt une vingtaine donc, d'années de pratiques démocratiques.
Mmh.
Et tout ça, c'est des éléments...
Merci Bakara Traoré. Merci beaucoup, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'être intervenu dans le journal des auditeurs. Merci aux auditeurs pour vos appels. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal des auditeurs sur Africa numéro 1.